Chapitre 17 Sur la route. Israel Kensky mourut à 5 heures du matin. Ses compagnons avaient de leur mieux pansé sa blessure à l'épaule, mais le plus habile chirurgien n'aurait pu lui sauver la vie. Il s'éteignit dans les bras d'Irène et fut enterré par ses amis à la lisière d'un petit bois. Chéridim, inconsciemment, fit son oraison funèbre. « Pauvre vieux, dit-il, c'était un bon type. Il était loyal et droit. C'est ce qu'on peut demander de mieux à un homme, et même à une femme, sauf le respect que je dois, miss. Maintenant, gentlemen, si l'un de vous veut faire un bout de prière, j'écouterai avec patience, car de mon naturel, j'ai l'esprit large. » La jeune fille s'agenouilla sur la tombe, les joues ruisselantes de larmes, mais nul n'entendit les mots qu'elle prononça. Chéribim, tenant des deux mains son chapeau appliqué contre sa poitrine, se composa une physionomie qu'il jugea adéquate à la circonstance, et quand le petit groupe s'éloigna de la tombe, il resta en arrière. Au bout de quelques minutes, lorsqu'il rejoignit ses amis, il refermait son couteau en courant. « Fâchez de vous retarder, ladies and gentlemen, mais dans certains cas, je suis sentimental. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. »« Et qu'est-ce que vous faisiez ?» demanda Malcolm, tandis que l'auto repartait. Chéri parut embarrassé et se racla la gorge. « Eh bien, pour dire la vérité, j'ai fait une petite croix et je l'ai plantée au-dessus de sa tête. » « Mais !» commença Malcolm, la main d'Irène lui ferma la bouche. « Merci, Master Bim, dit-elle. C'est une très bonne pensée que vous avez eue. »« Je n'ai rien fait de mal, j'espère, » demanda Chéri, alarmé. « Certainement non, » répondit gentiment Irène. Cette croix sur la tombe de Kensky devait donner aux fugitifs une journée de répit. Israël avait laissé à la place où la balle de la sentinelle l'avait frappé un bonnet de fourrure portant son nom. À la quantité de sang qu'ils retrouvèrent, les poursuivants comprirent que le juif était mortellement blessé. C'est une tombe qu'ils cherchèrent sur leur route, mais celle qu'ils rencontrèrent étant surmontée d'une croix, ils crurent que c'était la sépulture d'un chrétien et passèrent outre. Traversant le gué, ils descendirent vers le sud de la rivière, sur le bord de laquelle le vieux Kensky dormait de son dernier sommeil. Le danger restait très grand pour les 4 amis. « Tout ce que nous pouvons espérer, dit Malinkov, c'est d'éviter d'être découvert pendant 2 jours encore, après quoi nous devrons abandonner l'auto. » « Et de quel côté faut-il nous diriger ?» demanda Malcolm. « Vers la Pologne ou l'Ukraine. La Pologne et la petite Russie ne reconnaissent pas l'autorité du Soviet de Moscou. Nous gagnerons peut-être Odessa, mais évidemment, nous ne pouvons guère aller plus loin. J'irai où, plutôt ? J'avais un domaine à environ 70 verstes d'ici. » Et je crois que je puis compter sur le dévouement de quelques-uns de mes gens, s'ils sont encore en vie. Par exemple, il faut nous débarrasser de l'auto. Mais cela sera, je pense, assez simple. Ils traversaient maintenant une vaste plaine qui évoqua pour les voyageurs les steppes de l'Ukraine. C'était le même horizon large, la même foison de fleurs, genêts, trèfles et bluets, parsemant les prairies, et çà et là des groupes de chênes rabougris ou de borloos misérables. « Nous allons vite, dit Malcolm. Vous ne croyez pas qu'on puisse nous rattraper ?»« Oh, par la route, non, mais je ne suis pas tranquille en traversant cette plaine où l'auto soulève des nuages de poussière. »« Mais que redoutez-vous ?» « Les avions, mon cher. J'aperçois un petit bois où nous ferions mieux de chercher un abri jusqu'à ce que la nuit tombe. Tobolsk, le prochain village, étant un marché important, il doit s'y trouver des représentants du Soviet. Ses appréhensions étaient justifiées, car à peine la voiture s'était-elle engagée sous les arbres qu'un gros avion parut dans le ciel. Il survolait la route à peine à 100 pieds du sol et passa avec un grondement, puis s'éloigna. Les fugitifs le suivirent des yeux jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'une tache sur les nuages. « Ils nous font décidément beaucoup d'honneur, » déclara Malcolm. « Oh, » dit Malenkov, « Bulba a dû donner une version de son cru. En ce moment, vous êtes considérés non seulement comme des ennemis de la Révolution, mais comme des agents accrédités des nations capitalistes. On vous accuse probablement, Master Ray, d'avoir été envoyé par le chef de gouvernement pour exciter les bourgeois à renverser le nôtre. Mr. Bim sera dépeint comme un agent secret venu pour assassiner Lénine ou Trotsky. Si vous pouviez seulement intercepter un sans-fil officiel, vous apprendriez qu'un complot sérieux contre la Révolution a été découvert et que les financiers américains sont gravement compromis. À moins que l'Amérique ne soit en faveur de Petrograd, auquel cas ce seraient les financiers anglais. Alors nous sommes à un incident international, conclut Malcolm en riant. Mais parfaitement, dit le général très grave. Chéribim, assis sur le marchepied, fumait un long cigare, extrait d'une boîte que lui avait donnée Pietrov en canot d'adieu. « Jamais, oh jamais, » dit-il, « je n'aurais cru qu'on me prendrait pour un fonctionnaire de la police. » Malenkov, qui s'était avancé en flânant jusqu'à la lisière du bois, retourna précipitamment vers ses compagnons. « L'avion revient, » dit-il, « il en amène un autre. » Les deux appareils se mirent en effet à évoluer au-dessus de leur tête d'une façon méthodique, comme s'il fouillait le pays. Un petit bois à 2 milles de là semblait particulièrement attirer leur vigilance. « Mais de quelle couleur est le toit de cette auto ?» fit soudain Chéri. Et sans attendre la réponse, il grimpa dessus. « Oh, il est blanc. Il est temps de préparer un de ces petits camouflages dont j'ai si souvent entendu parler. » Les quatre hommes se mirent en devoir d'arracher de petites branches d'arbres et de feuillages qu'ils accumulèrent sur le haut de la voiture. Bim, qui avait l'instinct de la supercherie, dirigeait le travail. Comme le soleil descendait maintenant à l'horizon, l'astucieux gangster para aussi à un nouveau danger. « Baissez toutes les vitres, » dit-il. « Jetez un manteau sur le pare-brise et cachez tout ce qui miroite. » Comme le ronflement de l'avion se rapprochait, les fugitifs s'aplatirent par terre contre les troncs d'arbres. Tout à coup, il y eut une sourde explosion qui étourdit la jeune fille et la jeta contre Malcolm. D'un mouvement instinctif, elle se redressa pour courir, mais lui la rejeta sur le sol. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle tout bas. « Une petite bombe !» chuchota Malcolm. « Un vieux truc d'aviateur, lorsqu'il fouille des bois où se cachent des corps d'infanterie. Si quelqu'un se met à courir, il trahit la présence des autres. » L'avion continuait à tracer des cercles. Enfin, comme satisfait de son introspection, il prit une direction différente et le ronronnement des moteurs s'éteignit peu à peu dans le lointain. « Je ne comprends pas très bien ce qui se passe, » dit Malenkov. « Même en supposant que Bulba ait raconté son histoire, cette recherche obstinée d'autres groupes semble inspirée par une raison spéciale. » Il s'arrêta et reprit, après un moment de silence, Mais connaissez-vous un autre motif à cet entêtement de Bulba à nous poursuivre? Ben, je crois que oui, dit Malcolm, se souvenant brusquement du livre magique. Vous avez un livre, un objet appartenant à Kensky, demanda le général avec vivacité. Pas ce livre infernal, j'espère. Il avait l'air si agité que Meisterès se mit à rire. Mais si, j'ai le livre infernal. Mais c'est en réalité celui de la grande duchesse. Le mien ? Dit cette dernière avec surprise. Oui, Altesse, la dernière fois qu'Israël Kensky m'a parlé, c'était pour exprimer le désir que cet objet devint votre propriété. Elle frissonna. Mais toute ma vie semble avoir été associée à la recherche de cet affreux livre. Je me demande si c'est une des belles lectures faites par Kensky. Vous savez que ce travail était chez le pauvre vieux une manie. Il avait relié 6 volumes et tous délicieusement décorés. Il était riche, n'est-ce pas? Irène secoua la tête. Mais il n'avait pas un sou quand il est mort, dit-elle tranquillement. Toutes ses marchandises ont été confisquées et son argent saisi par ordre du nouveau gouvernement. Je lui ai demandé un jour pourquoi il ne se servait pas de son livre magique pour se tirer d'embarras. Et il m'a répondu que le temps n'était pas encore venu. Puis-je voir ce livre ? Malcolm tira de sa poche le précieux objet dans son enveloppe de toile et le tendit à la grande duchesse qui le regarda sérieusement. « Savez-vous, ma soeur, que j'ai presque envie de le jeter au feu ?» Et elle désigna le bois qui brûlait lentement à l'endroit où la bombe était tombée. « Il semble que quelque chose de sinistre s'attache à la possession de ce livre. Il me fait peur. » Après l'avoir considéré pendant quelques minutes, elle le rendit à Malcolm en murmurant « Pauvre Israël !» Le petit groupe n'osa plus bouger jusqu'à ce que la nuit fût venue. Malinkov pensait qu'il existait un chemin de traverse qui leur permettrait d'éviter le village. Il était plus prudent, en effet, de rester en pleine campagne, car si l'avion avait pu aller chercher du renfort, cela prouvait l'existence d'un camp proche. L'heure qui suivit fut angoissante pour tous, sauf pour Chalibim, qui s'était fabriqué un coussin et s'était installé sur le porte-bagages, à l'arrière de la voiture, de façon à pouvoir dormir sans tomber. L'auto marchait lentement, Malinkov craignant de dépasser le chemin de traverse. Le général était de plus en plus préoccupé. Bien qu'on approchât du village, aucune lumière n'était en vue. À un moment, il lui sembla apercevoir de sombres silhouettes se mouvant au ras du sol, et il crut à une hallucination. Mais 500 mètres plus loin, il se rendit compte que ses yeux ne l'avaient pas trompé. Une lumière rouge apparut sur la ligne du ciel, au sommet d'une petite côte qu'il commençait à gravir, et ils virent nettement plusieurs ombres avancer à leur rencontre. Le chauffeur stoppa brusquement, juste à temps, car les phares donnèrent dans un arbre couché en travers de la route. Malcolm avait son revolver, mais la lune aurait été trop inégale. En arrêtant l'auto, le chauffeur avait calé le moteur, et déjà ils étaient entourés. Un homme, tenant une lampe électrique, projeta un faisceau de lumière dans l'extérieur de la voiture et compta ses occupants. « 1, 2, 3, 4, tiens, il devrait être 5. Celui-là, c'est le général aristocrate. » L'autre, l'ancien soldat anglais. Ça, c'est la femme, mais il y avait aussi un criminel. Est-ce que vous avez vu sauter quelqu'un, vous autres? Demanda-t-il en se retournant. Non, répondit un chœur de voix. D'autres pas se rapprochaient. L'homme à la lampe, qui paraissait être l'officier, fit le tour de l'auto et découvrit le siège arrière, mais son occupant avait disparu. Tonnerre, il y avait un homme ici, hurla-t-il. Fouillez les abords de la route, voyons. Il ne peut pas être loin d'ici. Et projetant sa lumière sur le sol. Tenez, voilà ses chaussures. Vous allez le trouver dans les buissons, cherchez vite. Malcolm entoura de son bras la jeune fille. Vous n'avez pas peur? Demanda-t-il doucement. Non, mon ami, je ne peux plus avoir peur désormais. J'ai foi en Dieu. Est-ce que Chéri s'est échappé? Je crois que oui, dit tout bas le jeune homme. Il a dû voir les soldats et sauter, car ils ont trouvé ses chaussures par terre. L'officier revint vers eux. Vous avez des armes, donnez-les-moi. C'eût été folie d'opposer la moindre résistance. Malcolm tendit son revolver et Malenkov suivit son exemple. Non content de leur soumission, l'officier les fit descendre de voiture et les surveilla tout le temps que dura la recherche de Bim. Lorsque les investigations furent terminées, sans succès, « Remontez, leur dit-il, on va vous conduire chez le commissaire. La femme sera envoyée à Moscou. Où on la demande, mais nous jugerons sommairement l'étranger et Malenkov, ainsi que le petit voleur, dès que l'on l'aura retrouvé. » Puis, s'adressant au chauffeur, « Je vais m'asseoir à côté de vous, mon petit pigeon. Et si tu ne suis pas mes instructions, tu recevras une balle dans la tête. Allons, en route !» Chapitre 17. Le monastère de Saint-Basile. L'officier donna un ordre aux soldats qui écartèrent l'obstacle placé en travers du chemin, puis il alluma une mèche qui brûla d'une flamme rouge, éblouissante, pendant une demi-minute. « Un signal, » dit Malenkov, « c'est probablement pour annoncer notre capture. » Quelques minutes plus tard, un soldat sur chaque marchepied et l'officier assis près du chauffeur, la voiture démarra. Arrivé au croisement tant cherché par Malenkov, elle tourna à gauche et s'engagea dans une route étroite. « Je serais bien étonné s'il rattrapait notre brave ami, » dit la jeune fille. « En tout cas, ils le paieront cher, » répliqua Malcolm, « car Chéri ne cessera pas désarmer comme nous. » Au-devant d'eux, sur la colline de droite, une douzaine de feux montraient l'emplacement du camp. Il semblait de grande importance et Malenkov devina que ce devait être le lieu de rassemblement des Rouges. C'était un étrange voyage. Les captifs roulaient en pleine nuit, cahotés, la figure d'un gardien s'encadrant à chaque portière. Tout à coup, un des soldats tomba. Étant donné l'allure de l'auto, ils s'attendaient à le voir ressauter sur le marchepied. Mais à leur grande surprise, il ne reparut plus. Quelques instants après, un accident semblable arriva à l'autre soldat. Subitement, il lâcha prise et tomba en arrière. « Mais que diable leur arrive ?» commença Malcolm. « Regardez !» chuchota Irène. Un pied puis une jambe apparaissaient par la portière venant du toit. Un autre pied suivit, enfin, la masse d'un corps dans l'obscurité. C'était le Chéri. Doucement, le petit homme se faufila dans l'intérieur et s'approcha de l'officier dont la tête était tournée vers le chauffeur. « Stoï, Ruski !» dit-il. « Arrête !» c'était un des quatre mots de russe qu'il savait. Le chauffeur obéit, juste au moment où toute la route le séparait en deux, l'une menant vers la droite, sans doute au camp, l'autre descendant vers la vallée brumeuse. L'officier, qui avait vu le revolver de l'Américain, fit ce qu'il y avait de plus sensé en pareille circonstance. Il leva les mains, laissant tomber son arme au pied du chauffeur. Lestement, Bean le débarrassa de ses autres moyens de défense. Pendant ce temps, Malcolm avait sauté de la voiture. Il eut un bref conciliabule. Abandonner l'homme sur place pouvait amener des ennuis. Le tuer répugnait, même à Cheribim. « Mais le mieux est de l'emmener avec nous, » déclara Malinkoff. « Il y a bien des endroits où nous pourrons le déposer dans la nuit. Et tant qu'il ne saura pas par quel chemin nous prenons, je ne crois pas qu'il puisse être dangereux. » L'officier montra autant de philosophie que le chauffeur l'avant-veille. « Je vous en veux pas, petit général, » dit-il. « J'obéis aux ordres de mes chefs comme tout bon soldat. Pour moi, je crierais aussi volontiers « Vive le tsar » que « Vive la révolution ». Si vous quittez la Russie, je serai content de vous accompagner et je puis dès à présent vous être utile, car je connais la façon dont on a préparé votre arrestation. À chaque route, même à celle que vous allez prendre, il y a une barrière. À moins, ajouta-t-il pensif, qu'on ne l'ait enlevé à cause du commissaire Bulba. Il doit arriver par ici, demanda Malcolm. Sans doute. Vous m'avez vu allumer un signal tout à l'heure. Mais c'était pour prévenir le camp que vous étiez pris. On a dû télégraphier la nouvelle à Moscou et Bulba viendra pour juger les hommes et emmener sa femme. » Ce qu'il disait avait toutes les apparences de la réelle vérité. « Quelle route doit-il prendre ?» demanda Malinkoff. « Oh, la route de Tver, la plus directe de Moscou. Et nous pouvons le rencontrer d'un moment à l'autre. Au prochain croisement, il y a 4 soldats et 1 officier, mais pas de barricade. » Si vous me laissez parler, je leur raconterai un mensonge quelconque. Je leur dirai que nous allons au-devant de Bulba. Malinkoff se tourna vers ses compagnons. De toute façon, dit-il, nous sommes entre les mains de cet homme. Mon avis, c'est qu'il faut accepter son offre. L'auto fut donc remise en marche et Cherry, qui avait pris place dans l'intérieur, expliqua la façon dont il avait disparu. J'ai vu les premiers hommes de soldats que nous avons croisés. Et dès que l'auto a stoppé, j'ai compris pourquoi. Alors, quittant mes chaussures, j'ai grimpé sur le toit en vitesse. Pour le reste, ce n'est pas plus difficile que d'avaler un chou à la crème. Ah, vous n'avez pas tué les soldats qui se tenaient sur le marchepied, n'est-ce pas ? Dit Malcolm. Je n'ai entendu aucune détonation. Cherry haussa les épaules. « Mais pourquoi les tuer ? Je n'ai eu qu'à me pencher et à leur donner un petit coup de crosse sur la tête. Ils vont se réveiller en disant « Où suis-je, nurse ?» En une demi-heure, ils furent à la croisée des chemins annoncés et les 4 sentinelles apathiques s'écartèrent sur un mot de l'officier rouge afin de laisser passer les voyageurs. Maintenant, ils tournaient le dos à la route par laquelle ils étaient venus et suivaient parallèlement la voie du train que Bulba, selon les pronostics de l'officier, devait prendre pour les rejoindre. Jusque-là, l'auto avait marché sans accroc, mais à 30 kilomètres du camp, les pneus de devant crevèrent. L'incident aurait pu être de peu d'importance puisqu'il y avait 2 roues de rechange. Malheureusement, on découvrit que l'une d'elles était déjà hors d'usage. Il n'y avait qu'une chose à faire, pousser la voiture dans un champ, voiler les fenêtres et laisser au chauffeur le temps de réparer la chambre à air. Après lui avoir donné une lampe, ils le laissèrent avec l'officier qui avait offert son aide, puis se mirent à marcher sur la route dans le faible espoir de découvrir quelques fermes ou quelques cottages où ils pourraient renouveler leur maigre provision de bouche. Au bout d'une demi-heure, ils aperçurent un bâtiment écarté, dont ils approchèrent avec précaution. Le petit groupe pénétra dans un hall de pierre après une hésitation de quelques minutes. La chambre était brillamment éclairée et, de leur place, les visiteurs pouvaient apercevoir les nombreuses lampes suspendues au plafond. Malcolm entra le premier. La pièce, quoique nue, était belle. Devant un grand feu de bois allumé dans la cheminée, un homme se tenait debout, les mains dans les poches, dans une attitude de contemplation. Il était vêtu d'une vaste capote militaire bleue, dont le capuchon était rabattu sur sa tête. Malcolm s'approcha de lui. « Excellence, commença-t-il, nous sommes des voyageurs qui désirent. » L'homme se retourna lentement. « Oh, oh ! Vous désirez quelque chose, camarade Hay ? Eh bien, je vais vous dire ce que je désire, moi. C'est mon petit agneau, mon beau petit agneau, ma petite femme. » C'était Bulba, Chéribim, qui était entré le dernier, fonça vers la porte, mais il se trouva face à face avec le canon d'un revolver, une sentinelle étant postée là, sans doute, pour répondre au premier appel de Bulba. Chéri n'eut que le temps de s'aplatir sur le sol pour éviter la balle qui passa au-dessus de lui. En tombant, il fit feu et l'homme s'écroula. Alors Bim fit un nouveau bond hors de la pièce. Bulba était resté seul. Il rugissait, tempêtait, en longeant les murs à tâtons pour faire le tour de la chambre. « Mais où sont-ils? Où sont-ils? Venez ici, ma petite beauté !» Quant à eux, je le ferai brûler vif. Où êtes-vous tous ?»« Petit commissaire, dit le chef des soldats en accourant dans la pièce, personne n'est sorti d'ici, j'en suis sûr. »« Me cherche alors, chien que tu es !» hurla Bulba en le frappant. « Cher Jacques, il y a une porte dans le mur près de la cheminée, est-elle ouverte ?» Le soldat courut à la porte qui se trouvait dans le brombe. « Ouais, elle est ouverte, camarade. » Alors poursuite, alors poursuite maintenant !» Bulba paraissait fou furieux et de terreur. Le chef s'élança vers l'issue désignée. Chéri, lui, avait compris. Tout disait que Bulba avait fait du monastère son quartier général en attendant des nouvelles de fugitifs. Ce n'était pas 20, mais 200 soldats qui pouvaient surgir d'un moment à l'autre. Sans hésiter, il rejoignit la route, sans avoir rencontré aucune sentinelle. Alors, il marcha dans la direction de l'endroit où l'auto était restée. Soudain, il heurta du pied quelque chose. Se baissant, il le ramassa. C'était un petit paquet recouvert de toile de la forme d'un livre, et se souvenant des bribes de conversation qu'il avait entendues entre Irène et Malcolm, il devina qu'il avait entre les mains le livre magique. « Quelle imprudence !» dit Chéri en le fourrant dans sa poche. Mais cette découverte prouvait clairement une chose. Ses compagnons avaient fui. Du reste, l'auto n'était plus là. L'obscurité profonde empêchait qu'on distinguât les traces des roues. Seulement un bidon d'essence vide et une vague odeur de caoutchouc brûlé ne laissaient aucun doute sur l'emplacement abandonné. Bim fit appel à toute sa philosophie. Il était seul dans un pays inconnu, poursuivi par la justice, et la contrée fourmillait de soldats. Le mieux était de refaire en sens inverse le chemin qu'ils avaient parcouru en auto. Le petit homme s'engagea résolument dans un passage où les rails lui révélèrent qu'il était sur un chemin de fer. Comme il se penchait sur la voie, il aperçut dans le lointain une rangée de lumières qui se déplaçait. C'était un train. Bim comprit qu'il suivait une courbe, car les lumières s'éteignirent une à une jusqu'à ce qu'il ne restât plus que celle de la locomotive. Alors il se pencha de nouveau et distingua sur la gauche, à moins de 200 mètres, le quai d'une gare. Malenkov avait parlé en effet de la ligne de Varsovie. Tcheribim courut comme un fou dans cette direction, trébuchant dans les flaques, se heurtant aux buissons, et grimpa enfin sur le quai de la petite station. Maintenant, il s'agissait de monter dans le train. Chose presque irréalisable s'il marchait à toute vitesse. Au grondement sourd qui annonçait son approche, Bim, qui pouvait évaluer l'allure d'un train à 1 000 près, comprit que c'était un rapide. Mais comment le faire ralentir? Chéri fouilla dans sa poche et y trouva une allumette. Mais il ne fallait pas songer à faire un feu de joie sur le sol trop humide, et puis où trouver un morceau de papier? Et tout à coup, une idée lui traversa l'esprit. Le livre! D'un geste vif, il le tira de sa poche, déchira la toile avec son canif et essaya de l'ouvrir. Il était fermé par une serrure. Mais une serrure, pour Bim, c'était comme une croûte de pâté, une chose faite pour être brisée. Un coup de pouce et la ferrure tomba. Il arracha les 3 ou 4 premières pages, frotta l'allumette et en approcha la flamme. Comme elle touchait le coin du papier, ses yeux tombèrent sur les mots imprimés. Il resta bouche béante, regardant les feuillets se consumer en se tordant, jusqu'à ce que l'allumette lui brûla les doigts. Il la jeta et demeura immobile, comme hébété. Mais la petite flamme avait été aperçue, et un grincement des freins le tira de sa stupeur. Cherry fourra le reste du livre dans sa poche et courut le long du quai à la rencontre du rapide. Il s'arrangea pour laisser passer le convoi sans être aperçu, puis rampant vers la dernière voiture, il sauta, saisit la rampe de fer et se hissant sur les marches, il atteignit le toit du wagon au moment où le train s'arrêtait. Il y eut une confusion de voix, des explications, des ordres, puis le train s'ébranla de nouveau et reprit de la vitesse. Cherry eut alors le temps de réfléchir. Le jour n'était pas encore venu lorsqu'on s'arrêta à une petite station, et Bim, se penchant sur le bord, aperçut un groupe d'officiers descendus pour se dérouiller les jambes. Tout à coup, le chef de gare vint à eux en gesticulant et se mit à parler avec volubilité. Il semblait demander quelque chose en s'excusant, et son ton était presque craintif. Alors, à sa stupéfaction, Bim entendit la réponse faite en anglais. « Oh, je vous comprends. Laissez-les venir, général. » Je ne voudrais pas abandonner un chien dans ce pays, vraiment non. Mais ce sera contre toutes les règles de la diplomatie, protesta un autre officier dans la même langue. Mince alors, murmura Bim, suffoqué. Sur la route aboutissant à la cour de la gare, il venait d'apercevoir l'auto. Les lumières du train étaient assez puissantes pour qu'il n'y eût pas de doute. D'ailleurs, presque au-dessous de lui, derrière le chef de gare, un petit groupe s'avançait dans l'ombre. « C'est une question de vie ou de mort, » dit la voix de Malcolm. « Je dois envoyer cette dame à la frontière polonaise. C'est, je vous assure, un acte d'humanité. »« Anglais, hein ?» répondit celui qu'on appelait le général. « C'est bien, je vous prends à bord. » Devant tout le monde, Malcolm prit la jeune fille dans ses bras. « Montez, chérie !»« Oh, je ne puis partir sans vous, » dit-elle. Il secoua la tête. Oh, Malikoff et moi, nous suivrons un peu plus tard. Nous allons retourner chercher Cherry. Nous pouvons l'abandonner ainsi. Je sais qu'il est sûr qu'il a trouvé moyen de s'échapper. Non, mon ami, je ne veux pas partir sans vous, répéta Irène avec fermeté. Ah, il faut que vous veniez tous ou que vous restiez tous, interrompit le général anglais avec vivacité. Nous n'avons pas de temps à perdre. Vous comprenez, ajouta-t-il en manière d'excuse. Ce train ne nous appartient pas, c'est celui de la commission polonaise. Nous sommes chargés des clauses économiques de négociation et en avons fixé les termes entre l'armée rouge et la Pologne. Il est donc très irrégulier que nous emmenions des réfugiés de ce pays. Partez ! Malcolm entendit ce mot venant du ciel comme un soupir et eut toutes les peines du monde à ne pas lever les yeux. Mais, se souvenant de l'auto et de la mystérieuse et providentielle intervention de Dim, il n'hésita plus. « Très bien, nous partons, » dit-il tout de suite. « Venez, Malinkoff, je vous expliquerai mes raisons en wagon. » Un coup de sifflet perçant, une secousse, et le train partit. Avant que le dernier wagon eût quitté le quai, une grande auto de tourisme entra dans la cour de la gare, renversant la frêle barrière de bois et pénétrant jusqu'au quai même. « Stoy, stoy ! Arrêtez, arrêtez !» Bulba, debout dans la voiture et le bras tendu, se dressait éclairé par la lumière des phares. Chéribim se leva sur ses genoux, se raffermit. Un, deux, trois fois, il fit feu, et Bulba fit un plongé hors de la voiture, mort. « Décidément, dit Bim, ce revolver n'est pas mauvais. » Chapitre 19 Épilogue. « Toute ma vie, dit Chéribim en caressant affectueusement son chapeau melon, j'ai été ce que les reporters appellent un brigand si chevaleresque. » Il était carré dans un coin du compartiment de première mis à leur disposition. En écoutant parler Bim, la jeune fille sourit. Il y avait maintenant de la joie dans tous les regards, car les plaines que traversait le train étaient celles de la Pologne. « J'ai souvent pensé, Master Bim, dit Irène, que vous avez été notre ange gardien. » Chéri rayonna. Avant de vous quitter, cher camarade, je voulais effacer toute mauvaise impression dans vos esprits. Je tiendrais en particulier à l'estime d'une dame de la haute. Mais vous savez toute mon estime, chéri, dit la jeune fille en posant sa main sur le bras du gangster. Vous êtes un. Oui, oui, c'est ça, conclut Bim en venant à son aide. Je suis un brave garçon, seulement j'ai horreur de travailler, voilà tout. D'ailleurs, il se peut que j'en ai plus besoin désormais, parce que j'ai gagné assez de. Enfin, je me comprends. Malcolm lui donna une petite tape amicale. Vous quitterez la Russie plus riche qu'aucun de nous, mon cher Bim. « Oh, ce n'est pas beaucoup dire, remarqua le silencieux Malinkoff. « Altesse, n'irait-il pas moyen de recouvrer la fortune de votre père ?»« Elle n'existe plus, » dit-elle très calme. « Je n'ai même pas le livre du pauvre Israël Kensky, » ajouta la jeune fille en souriant. « J'ai été un imbécile, » grommela Malcolm. Quand j'ai rejoint la route, bon, j'étais si pressé d'arriver à la voiture que je ne me suis même pas aperçu que le livre tombait de ma poche. Nous n'avions pas une seconde à perdre, expliqua-t-il en se tournant vers Bim. Des soldats cherchaient déjà dans la cour lorsque Malinkoff a découvert une brèche dans le mur. J'étais désolé de vous laisser. Ça va, interrompit le petit homme. « L'affaire est réglée. Je vous ai entendu parler de moi du haut du wagon. Mais dites donc, est-ce vrai que cette jeune dame est dans la purée ? C'est le mot exact, dit gaiement Irène. Je vais être une bonne petite femme écossaise et je vivrai avec les moyens de mon mari, n'est-ce pas, Malcolm ? Malcolm sourit. Mais pourquoi cette question, chérie ? Sans répondre, Bim tira un livre de sa poche, le livre magique. Mais où l'avez-vous trouvé ? Sur la route. Alors j'ai fait sauter la serrure parce que j'avais besoin de quelques feuilles pour allumer un feu. C'était pour faire ralentir le train. La jeune fille tendit la main vers le volume, mais Bim continua sans le lâcher. Je ne sais pas lire le russe. Que veut dire ceci ? Et il posait son doigt sur l'inscription de la couverture de cuir. Irène traduisit « Ce livre renferme le secret de la toute-puissance et les formules capables de déceler les cœurs des hommes et de fondre leur orgueilleuse résolution. » Cheryl l'écouta sans interrompre. Puis « C'est une blague » dit-il tranquillement. « La preuve, c'est que ma résolution ne fond pas. » « Tenez, miss, voilà le livre !» Elle le prit, perplexe, l'ouvrit, et se mit à en tourner les pages, ne pouvant en croire ses yeux. Chaque feuillet était un billet de banque de 1 000 livres. « C'est évidemment ainsi que Kensky gardait son argent, » dit Malenkov. Dans des temps si troublés pour les Juifs, il aura pensé que c'était plus sûr de convertir sa fortune en monnaie anglaise. Et quand ses affaires marchaient bien, il intercalait un billet dans son livre. La jeune fille, émerveillée, se tourna vers Bim. « Saviez-vous que ce livre contenait des billets de banque ? » demanda-t-elle. « Un peu, puisque j'avais commencé à le brûler. »